Salut à tous et bienvenue sur Les Audacieux, le podcast qui met à l'honneur les acteurs de l'auto-édition et les indépendants. Je suis Judy, éditrice et libraire, j'accompagne depuis 2019 les auteurs qui souhaitent s'auto-éditer. J'ai créé ce podcast pour partager à grande échelle le parcours, les stratégies et les idées d'auteurs divers et variés pour vous montrer que vivre de l'auto-édition, c'est possible. Pour ce nouvel épisode, c'est Julie Müller-Volb qui me rejoint sur le podcast et que je suis ravie de vous présenter. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. J'ai la chance de te recevoir sur le podcast. Alors, j'ai honte de le dire, mais moi, je t'ai découverte un petit peu tardivement. C'était quand je suis allée à la conférence des auteurs indépendants à Paris et tu avais fait une intervention, effectivement, avec d'autres personnes et je m'étais intéressée, du coup, à ton travail à ce moment-là. Donc toi, tu es autrice à plein temps depuis plusieurs années maintenant. Tu as écrit et tu as auto-publié une dizaine de livres, je crois, dont de la new romance, des comédies romantiques, de la fantasy. C'est 60 000 exemplaires vendus depuis 2017. C'est un prix aussi littéraire France Loisirs Nouvelle Plume en 2017. Et donc, j'avais envie, nous, qu'on discute un petit peu de tout ça et surtout de l'aspect multigenre de ton travail, puisque quand on débute une carrière d'auteur, la question qu'on se pose souvent, c'est lié au genre qu'on va proposer à nos lecteurs, parce qu'il y a ce qu'on a écrit par le passé, il y a le livre qu'on est en train d'écrire et on se dit, celui-là, c'est celui que je vais publier. Et puis, il y a aussi toutes nos envies pour l'avenir. Comment est-ce qu'on filtrie dans tout ça et qu'est-ce qu'on propose à nos lecteurs? C'est de ça que j'avais envie de parler avec toi aujourd'hui. Mais avant ça, tu as eu toi aussi une autre vie professionnelle. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours et de comment l'écriture est rentrée dans ta vie?
Pour moi, en fait, devenir écrivain, ça, ou écrivaine, romancière, ou autrice, c'était pas une évidence, c'est pas quelque chose qui m'est venu quand j'étais petite, ou je me suis pas née écrivain, c'est pas une carrière qui m'est venue, qui a été évidente. Pour moi, je voulais être vétérinaire à la base, donc ça a absolument rien à voir. Malheureusement pour moi, arrivé au lycée, mes notes en maths n'ont pas été très convaincantes pour pouvoir poursuivre donc dans cette voie. Et je me suis orientée un petit peu malgré moi vers une carrière qui ne me passionnait pas particulièrement, mais bon, c'était un métier alimentaire. Donc j'ai fait un bac normal, puis j'ai suivi mon conjoint dans sa passion à lui qui était la prothèse dentaire. Et j'ai travaillé 10 ans en fait dans un laboratoire à faire des dentiers, tout ça. Ça vend pas du rêve, hein, mais bon, c'était chouette quand même. Il y avait un petit côté artistique de, et donc j'ai fait ça pendant 10 ans. C'était un métier alimentaire. Ça me suffisait. Ça nous a permis de nous lancer dans le grand monde des adultes, construire une maison, avoir des enfants, se marier, tout ça. Donc voilà, ma vie, j'avais une petite vie bien posée, pas très palpitante, mais voilà. Et mon frère est tombé malade en 2013. Ça en est suivi une période assez difficile pour moi parce que je me suis un petit peu perdue, j'ai perdu mes repères, je savais plus vraiment quoi faire de ma vie, j'avais envie de vivre en fait avant que ce soit fini, je me rendais compte que ben, la vie c'est éphémère et donc du coup je pense que j'ai dû faire une espèce de dépression, je suis pas très douée pour gérer tous ces trucs j'ai eu un suivi psychologique pour m'aider à sortir la tête de l'eau. Et cette dame me demandait qu'est-ce que je faisais pour moi. Donc j'ai pas très bien compris la question sur le moment. J'ai dit, bah comment ça, qu'est-ce que je fais pour moi? Je m'occupe de mes enfants, on fait des trucs quoi. Elle me dit, non, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous avez comme passion? Qu'est-ce que vous faites pour vous? Quand vous avez 2-3 heures pour vous, qu'est-ce que vous faites? Et ben là, du coup, ça a été la claque de ma vie. Parce que je me suis rendu compte que je faisais rien pour moi. Donc je me suis dit, ben mince, alors ça veut dire que tous les autres gens, ils ont des passions, ils font des trucs à côté, et pas moi, et alors il faut que je trouve quelque chose. Alors ça a été très difficile à encaisser. Elle m'a vu paniquer, du coup elle m'a dit, c'est pas grave, vous inquiétez pas, on n'est pas tous obligés. Donc ça a été un petit peu compliqué quand même, cette prise de conscience. Et à partir de là, bon, on n'en a plus vraiment parlé, mais je me suis cherchée. Donc je me suis demandé qu'est-ce que j'aime. J'ai essayé des trucs. Je me suis dit peut-être que faire du sport. Bon, je suis pas très sportive, hein, mais voilà. J'ai essayé de faire des trucs. Et puis un jour, des mois plus tard, même plus, près d'un an plus tard, en 2014, en allant à la librairie, je suis tombée sur un livre de Alexiane Delis, elle, qui avait reçu le prix de l'imaginaire donc en 2014. C'était Les ailes d'émeraude. Et Et je sais pas pourquoi la couverture m'a attirée, donc je l'ai pris un petit peu sans réfléchir. Et en fermant ce livre, je me suis dit, bah, mais c'était quand même génial en fait. Oh, mais ça aussi, je pourrais faire. Et sur le moment, je me suis pas rendu compte hein, de ce que je disais. Et donc mon mari m'a dit, bah, t'as qu'à écrire alors. Donc, je dis, bah non, mais je pourrais le faire. Il me dit, bah vas-y, fais-le. Et puis il y a eu ce petit ton un petit peu défiant comme ça. Ça a été une espèce de défi. Il me disait, mais vas-y, t'as qu'à. Alors je disais, bah, bien sûr que je pourrais le faire, c'est facile, je vois pas pourquoi est-ce que j'y arriverais pas. Et il me disait, bah vas-y. Et voilà, c'est comme ça qu'en ne voulant pas perdre la face, je me suis lancée en fait dans un truc complètement dingue, c'était écrire un livre. Je me suis dit, mais c'est pas possible, dans quoi je me suis lancée? Sur le coup, je me suis dit, ouais, c'est facile, ça avait l'air facile, c'était un livre très accessible. En fait, c'était de la jeunesse, enfin, c'est un livre young adulte, donc c'était moins intense que la fantasy adulte que je lisais avant. Donc moi, en lisant, j'ai trouvé ça facile. Après, quand je m'y suis mise, je me suis bien rendu compte que c'était pas facile du tout. Hein. On va quand même être très clair. Rien que cette histoire de trouver une idée, de trouver un plan, de construire des personnages, ça a été complètement dingue. Je me suis dit, mais dans quoi je me suis lancée? C'est pas possible, vas-y, laisse tomber. Et alors, il me disait, alors, ça avance? Et moi, je dis, bah oui, ça avance. Évidemment que je vais le faire. Et... Et donc voilà comment est né mon premier roman. Donc parce que je ne voulais pas perdre la face. Voilà, j'avais beaucoup de dignité hein, et de fierté. Donc il fallait que j'écrive un livre pour lui prouver que je peux écrire un livre si je veux écrire un livre et que bien sûr je vais tenir mes engagements. Et donc c'est comme ça que j'ai écrit donc mon premier roman qui s'appelle L'Éden. Donc ça c'était sur fin 2014, 2015, même début 2016. Il s'est passé ouais, un an et demi je pense où j'ai bossé dessus. Et en 2016, donc, je me suis retrouvée avec un livre et je ne savais pas quoi en faire parce que j'en avais pas parlé ni à mes parents, ni... enfin, j'en avais pas parlé, c'était comme un secret honteux. Je me suis dit, pour qui je me prends? Enfin, je suis pas écrivain, je suis pas Musso, je suis pas J.K. Rowling, je peux pas écrire un livre. Moi, je suis là dans ma petite campagne à faire des dentiers toute la journée. Je suis pas du tout écrivain, en fait. Et donc je l'ai caché comme un petit secret honteux. Et le jour où j'en ai parlé à ma meilleure amie qui a voulu le lire, ben j'ai été très gênée, mais je lui ai fait lire, elle a trouvé ça transcendant, forcément. Alors voilà, mes parents aussi ont fini par trouver ça transcendant. Mais comme je suis très lucide comme fille et que je les croyais absolument pas puisqu'ils sont pas impartiaux, j'ai décidé de me confronter en fait au regard des gens. J'ai cherché... comment faire pour avoir des vrais retours de vrais lecteurs qui ne me connaissent pas et qui pourront me dire « Non mais c'est trop nul, vas-y laisse tomber, arrête, c'est pas pour toi ça !» Donc je me suis tournée instinctivement vers l'auto-édition. Je me suis même pas posé la question de le publier en maison d'édition sur le moment parce que je m'en sentais pas légitime d'une et que je n'avais aucune idée de ce que c'était une maison d'édition avant de mettre les pieds dans ce monde-là. Donc je l'ai mis... il était disponible sur KDP à l'époque, si je dis pas de bêtises, et les premiers retours ont été plutôt bons. Évidemment, il était pas parfait, il était bourré de fautes parce que j'avais pas pris de correcteur, j'avais fait une couverture avec un graphiste qui était pas... Bon, elle était bien, mais c'était pas dans les codes du genre, ça répondait pas aux critères professionnels de l'édition. Mais les premiers retours étaient quand même positifs. Malgré tout ça, j'en ai vendu beaucoup, mine de rien, j'étais très surprise. J'étais presque honteuse, je me disais, voilà, ces pauvres gens qui vont acheter mon livre, comme ils vont être déçus. Et au final, non, pas du tout. Et c'est pour ça que je me suis plus ou moins... J'ai pris confiance. Et en 2017, j'ai décidé de le proposer à Nouvelle Plume France Loisirs, dans le cadre du prix de l'imaginaire 2017. Donc. Et c'était comme une espèce de boucle, parce que c'est ce premier roman, ce premier prix de l'imaginaire en 2014 qui m'avait donné envie d'écrire. Je me suis dit, pourquoi pas essayer aussi, j'avais aucune idée des autres maisons d'édition qui prenaient ce genre, des choses comme ça. Alors je me suis dit pourquoi pas. Et donc en 2017 est arrivé ce fameux mail « Nous voulons vous éditer !» Voilà, où j'ai pensé que c'était un spam. J'ai failli l'effacer, jusqu'à ce que je lise tout au bout et qu'il y avait un vrai nom avec un vrai numéro de téléphone qui me proposait un vrai rendez-vous téléphonique. Pour discuter du contrat d'édition, tout ça. Donc c'est à ce moment-là que j'ai compris en fait que c'était peut-être pas si pourri que ça ce que j'écrivais. Donc voilà, j'avais écrit un premier roman et je pensais m'arrêter là. Finalement, j'y ai pris goût et je me suis jamais arrêtée.
On dirait bien. Mais t'as commencé par ce genre-là parce que t'avais lu dans ce genre-là, parce que c'est un genre qui te plaisait déjà, ou est-ce que c'est arrivé un petit peu par hasard, par surprise
Non, en fait, comme je lisais exclusivement de la fantasy, du fantastique et du young adult depuis peu, ça a été assez naturel de me diriger vers cet univers-là. Alors, mes premières idées n'étaient pas ça. Je voulais écrire, quand j'ai décidé d'écrire un roman, je me suis dit, je vais écrire sur la maladie de mon frère. Comme ça, je vais pouvoir parler de cette maladie rare, la faire connaître, pour que les gens comprennent ce qui se passe derrière la porte, comment que ça se passe en vrai. Et j'ai pas su le faire, parce que j'ai pas voulu entrer dans l'intimité de mon petit frère, de ma famille, de tout ce qu'on a vécu. Je voulais garder une espèce de barrière. Je voulais pas que ce soit de l'autobiographie, je voulais pas atteindre à sa dignité. Il y avait plein de petits red flags qui me disaient « Non, fais pas ça, ça va être trop compliqué. Et si les gens le lisent seulement pour la curiosité malsaine ? Et si ?» Et donc, ce n'est pas ce roman-là que j'ai écrit en premier. Donc, je me suis tournée vers ce que j'aimais. J'ai écrit du fantastique young adult, une trilogie complète, donc l'Éden 1, 2 et 3. Et donc, ça a été assez naturel, de me tourner vers ce genre-là.
D'accord, ok, je vois. Tu disais que tu étais lectrice essentiellement de ce genre-là aussi depuis longtemps. Tu lisais pas...
Oui.
Tu lis beaucoup ? Tu es une grosse lectrice à la base ou pas spécialement ?
Oui, alors je lis énormément, mais je diversifie mes lectures depuis quelques temps. Donc, je lisais énormément de fantastique, fantasy, young adult avant. Et je suis devenue très difficile depuis que j'écris. Donc, je suis une lectrice très exigeante. Donc, il a fallu que je change un petit peu de genre pour pouvoir retrouver cette espèce de plaisir de lire sans voir venir le scénario, en fait.
Ouais.
Donc, je lis un petit peu de tout, sauf du thriller, du polar, des trucs qui font peur, en fait, parce que je suis une frossarde.
Ok. Il y avait une question qui m'intéressait, alors qui est un petit peu personnelle, mais... Tu touches un petit peu à tous les genres dans l'écriture et je me demandais si dans la vie de tous les jours tu étais quelqu'un qui touchait un petit peu à tout aussi dans différents... Alors ça peut être effectivement dans les arts, la musique, ce genre de choses ou simplement dans tes passions, toi qui as cherché longtemps finalement quelles étaient tes passions. Est-ce que tu es un petit peu touche à tout ou t'es quelqu'un de plutôt posé qui...
C'est un petit peu un mélange des deux, je dirais. Ma multipotentialité se diversifie beaucoup, mais je me concentre sur une chose après l'autre. Donc, oui, je touche un petit peu à tout. J'ai des périodes, j'aime beaucoup dessiner, j'ai eu des périodes où je faisais beaucoup de musique, j'écoute tout un tas de genres de musique différents. J'ai une playlist, elle est horrible. Il n'y a rien qui va dans cette playlist. Il n'y a rien qui va, ça n'a aucun sens. Mais c'est pas grave, c'est ma playlist préférée et on peut passer du coup à des chansons Disney, à du Brassens, à Linkin Park, enfin voilà, ça n'a vraiment aucun sens. Mais voilà, donc ça me résume plutôt bien. Donc oui, je touche un petit peu à tout. Je me suis passionnée pour la conception de savon artisanal et de shampoing solide. Donc j'en ai écrit un roman du coup, parce que j'ai eu ma période éco-responsable très intense, zéro déchet, tout ça. Donc il y a eu des années entières où je me suis concentrée à tout ça. Après, je change de sujet d'intérêt. Donc, je change beaucoup, mais je reste longtemps dessus. Je ne sais pas si c'est clair. Enfin, voilà.
Au bout du truc, et puis après, une fois que tu arrives à quelque chose qui te convient, tu as l'impression d'être allé au bout du chemin.
Voilà. Une fois que j'ai fait le tour, je change.
C'est bien, parce que ça t'évite. Tu sais, il y a beaucoup d'auteurs aussi qui ont... de personnes de manière générale qui ont ce qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant, c'est-à-dire qu'en fait on n'arrive à rien finir puisqu'à chaque fois on est attiré par quelque chose de nouveau, de différent, donc ça te permet au moins d'aller en profondeur dans les choses, quoi.
Oui. Bon, je me contrains quand même, parce que j'aimerais faire de la couture, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça, mais j'ai pas assez de temps dans ma journée, donc je suis obligée de me contraindre quand même. Il y a certaines choses, je peux pas, par exemple, j'adore faire des puzzles, voilà, c'est mon petit plaisir, j'adore faire des puzzles, mais je peux pas aller me coucher s'il est pas terminé. Et c'est des gros puzzles quand même, donc ça peut être très gênant dans ma journée si je me lance dans un truc comme ça et que je peux rien faire d'autre alors que j'ai une entreprise à gérer, des enfants, enfin faut que je cuisine quand même, que je les nourrisse, tout ça. Donc ça peut être très gênant, donc ça peut devenir très obsessionnel quand j'ai des passions.
Alors si je reviens un petit peu du coup à l'écriture, tu disais que tu avais eu tu avais terminé ce premier roman, tu avais eu le fameux prix, etc. À quel moment en fait est-ce que l'écriture c'est devenu une carrière possible ? Et à quel moment tu t'es dit je peux quitter mon travail de prothésiste dentaire et faire de l'écriture en fait mon métier ?
Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Je suis assez prévoyante, donc j'avais besoin d'avoir une certaine sécurité sans me lancer dans le vide, sans parachute en fait. Donc ma vie personnelle et ma vie professionnelle se sont plus ou moins imbriquées de manière à ce que je tende vers cet objectif. Donc j'étais prothésiste dentaire, j'ai eu deux, trois enfants et j'ai gagné mon prix littéraire lors de ma dernière année de congé maternité. 2016, il faut que je compte, pardon, vers la fin de mon congé maternité. Et c'est à ce moment-là, en fait, que je me suis dit, bah, j'ai pris ces 2 ans-là pour écrire, et mes enfants, bien sûr, mais j'ai pris ces 2 ans-là pour écrire, pour voir si c'était possible. J'ai gagné le prix, je me suis dit, bon, bah, c'est qu'il y a quand même quelque chose, ce serait dommage de laisser tomber. J'ai décidé de quitter mon travail, donc j'ai eu 2 ans de chômage ensuite pour stabiliser mon équilibre financier et voir si ça prenait ou si c'était pas la peine. Et donc on arrive là du coup en 2020 où j'avais sorti quelques titres, ça marchait plutôt bien et j'ai pu donc quitter tout mon travail, tout ça, toute ma sécurité avec un petit peu d'argent de côté pour subvenir aux besoins au cas où ça marchait pas. C'est donc en 2020 que j'ai ouvert ma micro-entreprise pour me lancer entièrement à temps plein dans l'édition. Et bon, après, il faut savoir que si j'avais repris un travail, ça aurait été à mi-temps pour pouvoir gérer les enfants. Mon mari a une situation stable, correcte, qui nous permet aussi d'avoir un filet de sécurité. Sans tout ça, je l'aurais peut-être pas fait. Donc, parce que j'aime la sécurité. Donc, il fallait vraiment que tout concorde pour me lancer dedans. Sinon, j'aurais continué à travailler jusqu'à ce que je sois sûre. Donc, voilà.
Est-ce que ça a changé ta manière peut-être d'écrire ou en tout cas de d'imaginer ce que pourraient être tes livres? Parce que c'est vrai que quand on écrit au départ sans avoir l'idée d'être lu ou d'être publié, c'est une chose. Mais là, du coup, se pose la question du lecteur. Est-ce que ça a changé quelque chose ou pas du tout?
Si, complètement. Mon premier roman, je l'ai écrit parce qu'il fallait que je relève un défi, parce que j'avais envie de me faire plaisir, que je me suis prise au jeu et que j'écrivais ce que j'avais envie d'écrire. Je n'avais aucune idée que j'allais le faire lire à personne. Pour moi, j'allais l'enterrer, en fait. Hein, c'était fini après. Donc, j'ai vraiment écrit par passion, par envie. Le soir, j'avais très peu de temps parce que, bah, comme dit, j'avais beaucoup d'enfants, hein, déjà. Ils étaient tout petits, donc ils dormaient pas la nuit. Enfin, mes heures étaient comptées. Et au lieu de regarder la télé ou de faire d'autres choses, moi, j'écrivais parce que ça me faisait plaisir de le faire. Après, une fois qu'on s'est confronté au lectorat, tout change. Parce qu'arrivent les premières critiques négatives. Les positives, on les prend plutôt bien, hein. C'est étrange. Mais arrivent les premières critiques négatives et on se dit, ah oui, il faut quand même que la barre est haute, il va pas falloir les décevoir pour le tome 2. Mais ils s'attendent à quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent? Est-ce que je peux écrire encore ce que je veux? Est-ce que je peux pas? Et si je prends plus de plaisir, est-ce qu'ils vont le sentir? Il y a tout ce côté qui est cette pression qui arrive sans que on en ait besoin. Mais c'est comme ça. Donc oui, ça a complètement influencé mon écriture. Faire attention à ce qu'on dit, faire attention à l'intégration, à ne pas dire des choses qui pourraient mal influencer les jeunes ou enfin voilà, toutes ces choses-là que je me posais pas la question avant, il fallait que je le prenne en compte après. Donc ça a influencé mon écriture. J'ai pas perdu ce goût d'écrire du tout, mais je faisais plus attention quand même. Je me suis entourée d'une équipe d'alpha lecteurs. Bon, c'était des amis, mais voilà, afin qu'ils me disent au fur et à mesure si ça tient la route, si ça répond à leurs attentes, ce que j'avais pas fait du tout pour le tome 1, évidemment, puisque j'écrivais toute seule dans mon coin. Une fois que c'est publié, j'ai eu quelques soucis avec ma maison d'édition, donc là aussi je me suis demandé est-ce que je vais continuer à écrire, vas-y, laisse tomber, ça sert à rien, c'est pas la peine, je m'attendais pas du tout à ce monde-là, une fois que j'avais signé mon contrat. Donc il y a eu beaucoup de choses qui m'ont perturbée. Après, quand on arrive dans l'auto-édition, tout est différent. On gagne de nouveau en liberté, mais on sait aussi que c'est nos propres choix qui vont influencer bah, les revenus. Et donc, actuellement, j'écris dans plusieurs genres, mais je sais qu'il y a des genres qui se démarquent et qui vendent mieux. Donc, je sais qu'il faut que j'écrive dans ce genre-là si je veux gagner ma vie. Voilà. Donc, oui, ça influence forcément mon écriture.
Tu disais un truc intéressant, tu parlais de maison d'édition, auto-édition. Qu'est-ce qui a fait que tu as, alors, au départ, choisi la maison d'édition parce que concours de circonstances, ça s'est passé pour ton premier roman. Mais ensuite, pourquoi toi, tu as choisi l'auto-édition?
Pour la liberté. Vraiment, Une fois qu'on signe un contrat d'édition, ce qui est très bien pour ceux qui ont envie de le faire, je ne dénigre pas du tout les maisons d'édition parce qu'elles font un travail de dingue, j'en suis tout à fait consciente. Une fois qu'on signe un contrat d'édition, on n'a plus la main sur son roman et il ne nous appartient plus. Et ça, ça a été très difficile à vivre pour moi parce que j'ai pas été consultée pour la couverture, par exemple, où on a changé le titre parce que bah, c'était pertinent, clairement. Mais ça a été difficile de se rendre compte qu'il faut changer le titre et que c'est pas toi qui prends la décision, en fait. Il y a leur stratégie marketing qui n'était pas en accord avec la mienne. Il y a des choses que je voulais faire et que eux ne voulaient pas. Donc je me suis sentie autant ça m'a propulsée, je peux pas le nier, autant je me suis sentie un petit peu acculée. Et j'aime pas me sentir coincée. Dans mon idéal, dans mon esprit, signer avec une maison d'édition, c'était un partenariat. Je m'étais pas rendu compte du tout que en fait c'était pas le cas. Pour moi, en tout cas, dans cette maison d'édition-là, il y a certaines maisons d'édition, je pense que c'est différent partout ou dans tous les cas, mais ça n'a pas été le cas, c'était pas du tout un partenariat. On était plus sur un rapport de force qui ne m'a pas plu. Négocier les contrats, se rendre compte qu'on n'a absolument aucun poids pour le négocier, devoir signer quelque chose qui ne convient pas forcément, tout ça, ça m'a pas vraiment plu. Une chose en amenant une autre, j'ai fini par reprendre mes droits. Et quitter la maison d'édition pour retourner à l'auto-édition, mes premiers amours.
D'accord. Tu n'avais pas dans l'idée de chercher un autre éditeur ou
Je ne suis pas du tout fermée à l'idée de chercher une maison d'édition. Je tente de temps à autre, à droite à gauche. Par contre, je ne suis pas prête à faire beaucoup de concessions. Donc, c'est compliqué. Je sais que j'écris ce que j'ai envie d'écrire et que ce n'est pas forcément à la mode ou ce que les éditeurs cherchent en ce moment. Je ne doute pas vraiment de mes qualités narratives. Ça, dans l'idéal, j'aimerais en être tout à fait convaincue, mais j'ai un syndrome de l'imposteur contre lequel je me bats, comme tout le monde, je suppose. Je sais que sinon, je ne vendrais pas, j'aurais pas vendu autant de livres, j'aurais pas gagné un prix littéraire. Donc, j'en ai conscience quand même, mais je ne suis pas prête à écrire ce que les maisons d'édition veulent que j'écrive. Je ne sais pas si c'est très clair. Même proposer des choses que... Réfléchir à ce que les maisons d'édition attendraient de moi pour pouvoir écrire quelque chose qui correspondrait et leur proposer, c'est pas du tout dans mon processus. J'écris ce que j'ai envie d'écrire, en fait. Et bah, si ça plaît, ça plaît. Si ça passe, ça passe. Si ça passe pas, ça passe pas. Et c'est pas grave.
Tu verras bien ce qui se présente, mais voilà, t'es pas...
C'est ça.
Et puis après, avec la carrière que tu as et ce que tu arrives à faire, toi, en auto-édition, c'est vrai que être publié en maison d'édition n'est plus forcément quelque chose d'absolument nécessaire, quoi, je veux dire.
Oui, il faudrait vraiment que ça m'apporte... Il faudrait que ça m'apporte quelque chose. Pour l'instant, signer avec une petite maison d'édition, ça ne m'apporterait rien, puisque je fais tout le travail et que je peux aussi récupérer l'argent qui va avec, quoi. Donc, je ne vois pas trop l'intérêt. Il faudrait déjà que ce soit une très, très grosse opportunité pour que je sois OK avec l'idée de perdre ma liberté.
On va revenir un petit peu à l'écriture. Quand tu rencontres quelqu'un qui te demande ce que tu écris, qu'est-ce que tu réponds ?
Eh bien, je réponds que j'écris de tout sauf des trucs qui font peur. J'écris ce qui me fait plaisir. J'écris de l'imaginaire, j'écris de la romance parce que l'amour, c'est la vie. Et c'est très kitsch, mais je m'en fous, hein, ça, je l'assume complètement. Et j'écris des choses qui me font plaisir. Donc voilà.
Et alors, d'où ça te vient cette envie, justement, d'explorer ces différents genres et ces différents univers ? Parce que ça paraît de l'extérieur assez éloigné. Après, il y a plein de choses qui peuvent se relier en fait dans ces différents genres. Mais pourquoi toi, tu as voulu aller explorer tout ça ?
Parce que je ne suis pas sûre d'avoir le choix, en fait. Je crois que ça s'impose de tout seul. Pour l'Éden, c'était parce que c'était ce que j'aimais écrire. Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte qu'il y a un message caché derrière. J'ai sûrement exorcisé c'est la maladie de mon frère et toutes ces étapes, il y a eu une espèce de thérapie qui s'est greffée dessus. On s'en rend pas compte quand on lit le roman et personne ne le sait. Mais je pense qu'il y a toujours quelque chose qui me pousse à écrire. Enfin, j'écris parce que j'ai des choses à dire, je pense, ou à exorciser. Donc ouais, après j'ai écrit l'Éden pour ça. J'ai fini par écrire le roman sur la maladie de mon petit frère. Donc dans un voyage mélange entre fiction et réalité qui me convenait plutôt bien. J'avais trouvé un équilibre. Ensuite, j'ai écrit de la romance parce que j'aime ça. Je trouve ça mignon. J'aime beaucoup la romance. Et puis, j'aime bien choisir des sujets un peu difficiles aussi. Ma première romance traitait de l'adultère. Donc, c'est un sujet tabou. J'avais conscience de me tirer une balle dans le pied avant même de le publier. Mais sur le moment, j'ai trouvé ça génial de l'écrire parce que ben, les belles histoires d'amour, et ben, c'est pas toujours tout rose. Donc voilà, j'avais envie de montrer que ben, la vraie vie, c'est ça aussi. Donc j'écris vraiment ce que j'ai envie d'écrire. Je me pose pas la question. Je sais que parfois ça va pas forcément être bien pris, mais j'écris du post-apo, la dystopie post-apo dans ma période éco-responsable parce que j'avais envie de sauver les abeilles. Je voulais sauver les abeilles toute seule, mais je savais pas comment faire. Donc j'ai écrit un livre dystopique où les abeilles ont disparu. Plus d'abeilles, plus de pollinisation, plus de photosynthèse, ouf, plus d'oxygène. Donc j'ai fait des recherches pour bien documenter mon récit. Et mes derniers romans, c'est... j'avais envie de parler de l'autisme au féminin. Quand c'est difficile d'être diagnostiqué ou quand c'est un handicap invisible qui est très très difficilement diagnosticable quand on est une fille parce qu'elle camoufle bien. Donc voilà, j'avais envie de parler de ça, j'avais envie de parler des mondes invisibles, du voyage astral, des vies antérieures, toutes ces choses-là pour lesquelles je me suis énormément documentée aussi. Donc voilà, ça, en fait mes écrits suivent mes obsessions du moment, je dirais.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais, c'est très lié à ton état d'esprit, à ce qui se passe dans ta vie. Ouais. Est-ce que c'est compliqué de passer, du coup, d'un genre à l'autre? Est-ce que, une fois que tu as fini un roman et que tu commences le suivant qui est dans un genre totalement différent, est-ce qu'il te faut du temps pour sortir du précédent ou finalement, bah, comme tu le dis, ça suit vraiment ton envie du moment et ton obsession, donc du coup, tu es à corps perdu là-dedans?
Non, j'ai aucune difficulté à changer de genre. Après, j'écris pas très très vite. Donc j'ai le temps d'encaisser la fin d'un roman avant de me lancer dans un autre projet. Et mon entreprise, le fait de vivre de ma plume, d'écrire tout ça, ça reste une partie minime de ma vie parce que je suis maman de 3 jeunes filles, petites filles, qui me demandent énormément de temps. Mon métier principal actuellement, c'est quand même mère au foyer. Et l'écriture, c'est à côté. Donc il y a vraiment deux mondes qui se chevauchent. Donc de passer d'un écrit à l'autre, ça se fait en douceur en fait. J'ai le temps de le préparer, j'ai beaucoup de temps où je suis occupée avec les enfants, où mon esprit divague, et donc j'ai le temps de préparer éventuellement d'autres récits. Bon, alors, quand je dis que j'ai beaucoup de temps libre, on est d'accord, c'est pas du temps libre, hein. J'ai pas de temps libre, hein. J'étais pas très claire. J'ai pas de temps libre, disons que j'arrive à chevaucher les choses. Mais voilà. Donc je travaille essentiellement quand les enfants sont à l'école et après c'est très difficile de trouver du temps pour travailler, même si l'un empiète forcément sur l'autre tout le temps.
Écrire dans différents genres, c'est bien. Ça paraît un petit peu compliqué dans le sens où le monde du livre aujourd'hui est très segmenté, tu vois, que ce soit en librairie, dans les maisons d'édition, que ce soit sur internet, ben voilà, il faut trouver le bon rayon, la bonne rubrique, la bonne catégorie, etc. Donc c'est vrai qu'on a vraiment l'impression d'avoir des cases à remplir quand on est écrivain. Est-ce que c'est quelque chose que tu as pu ressentir ou que tu ressens encore aujourd'hui?
Oui, alors oui, clairement, il y a des clivages entre les genres. Moi qui pensais, j'avais construit une belle base un beau lectorat avec l'Éden. Quand j'ai sorti mes romans suivants, qui étaient une romance et le roman de voyage autour du monde que j'ai écrit pour mon petit frère, j'étais persuadée que ça allait faire un carton comme l'Éden parce que bah, j'avais une belle base. Alors je dis pas que ça n'a pas marché, mais c'est pas du tout le même lectorat. Et je m'en suis rendu compte à ce moment-là. Je veux dire, certains m'ont suivi, même plutôt pas mal. Donc je suis très heureuse, j'ai les meilleurs lecteurs du monde de toute façon. Donc voilà, ça c'est dit. Mais pas tous. Et pour conquérir donc un nouveau lectorat, ça a été compliqué. Parce que bah, j'avais aucune idée de comment faire sur le moment. Donc oui, y a un clivage et c'est difficile. Actuellement, j'ai deux lectorats. J'ai de la romance et j'ai de l'imaginaire. Et ils me suivent pas forcément de l'un à l'autre. Ouais, c'est assez compliqué. Mais bon, j'ai pas le choix, j'ai commencé comme ça.
Est-ce qu'il y en a certains, par exemple, qui te font confiance et qui se disent bah, « je vais quand même aller lire cet autre genre qui n'est pas mon genre de prédilection, mais parce que j'aime l'écriture de l'autrice, etc. » Ou est-ce que tu sens que c'est quand même assez fermé à ce niveau-là?
Non, il y en a. Il y en a quand même pas mal. Après, j'ai un gros lectorat, donc je peux pas dire que la moitié me suit. Si je devais faire un pourcentage, je dirais que ça doit aller entre 10 et 30% me suivent, donc ça reste quand même assez clivé. Mais j'en ai quand même qui me suivent, qui me font confiance et qui me lisent dans tous mes genres parce qu'ils aiment ma plume.
Et est-ce que tu as pensé au début, alors peut-être quand tu as sorti ta première trilogie et que tu es passé du coup sur un autre genre comme la romance, est-ce que tu as pensé à éventuellement publier sous un pseudonyme ou est-ce que c'était pas du tout une option pour toi?
Je me suis pas posé la question, mais j'aurais peut-être dû. Je fais beaucoup les choses au feeling. donc, je me pose pas la question. J'ai pas beaucoup de temps. Et j'ai pas le temps de me poser ce genre de questions. Je fais pas des études de marché complètement dingues avant de me lancer. Il faudrait faire plein de choses. Mais en fait, je suis très authentique et je suis très, très spontanée. Donc, quand j'ai décidé d'écrire une romance sur l'adultère après ma trilogie de l'Éden, je me suis pas posé la question, en fait. Hein. Moi, je me suis dit, bah, vas-y, continue, hein, t'es bien lancé, ça va aller tout seul, ils vont te suivre, ça va faire un carton, tu vas pouvoir vivre de ta plume. Je me suis pas posé la question de changer de nom, parce que bah, c'est moi qui l'ai écrit, donc je voyais pas pourquoi il fallait que je change de nom sur le moment. Avec du recul, je me dis que j'aurais peut-être dû, pour créer deux bases de lectorat différents, et pouvoir pérenniser ces deux lectorats, enfin ces deux genres, j'aurais peut-être dû faire ça. Mais ça implique aussi qu'il faut que je m'implique de manière équivalente dans deux lectorats, c'est-à-dire de faire deux comptes réseaux sociaux, deux newsletters, gérer complètement deux univers différents, sauf que j'ai pas deux fois plus de temps. Donc, je me dis que les choses se sont faites parce qu'elles devaient être comme ça pour moi. Je me suis pas posé la question, je me la pose toujours pas, je vais pas maintenant republier avec un nom de plume. De toute façon, j'écris ce que j'ai envie d'écrire. Les gens qui me suivent prennent ce qu'ils veulent pour l'un genre ou pour l'autre. Ça fonctionne pour moi comme ça. Je suis très transparente et authentique, donc les gens savent, j'écris de tout. Je ne force personne à lire la romance parce qu'ils préfèrent du post-apo. Enfin, il n'y a pas de pression de ce côté-là. Mais je pense que c'est peut-être plus judicieux de faire, si on a le temps et qu'on a l'énergie, et ça reste très chronophage, si on a le temps et l'énergie de gérer deux univers différents avec deux noms différents, c'est peut-être plus judicieux. Moi, j'aurais jamais eu le temps et l'énergie. De toute façon. Donc, les choses sont bien faites pour moi.
Ouais, faut bien être conscient au départ de ce que ça demande comme investissement d'avoir deux identités d'auteurs différentes.
Oui, mais même plus, puisque j'écris de la dystopie et de la science-fiction, ça n'a rien à voir avec la fantasy et du fantastique. Il aurait fallu que je fasse donc un troisième nom de plume. Et comme j'écris un roman de littérature blanche, il aurait fallu que j'en fasse un quatrième. Donc non, c'est vraiment pas pour moi. Non, du coup, j'écris de tout, les gens le savent, ils viennent parce qu'ils ont envie de venir pour l'un ou pour l'autre, et normalement j'arrive à contenter à peu près tout le monde, que mes communications sont un peu plus disparates. Si tu attends de la romance cette année, ça va être un peu compliqué. Si tu préfères du fantastique, ben, l'année prochaine risque d'être un peu plus compliqué. Mais en général, ils arrivent quand même toujours à trouver leur compte. Il y a toujours de la romance dans mes histoires fantastiques, et il y a toujours un petit peu de fantastique dans mes romances. Enfin, pas toujours, toujours, mais normalement, tout le monde y trouve son compte.
Tu disais au tout début qu'il y avait des genres qui fonctionnent mieux que d'autres. Enfin, ça, on le sait, hein, de toute façon, c'est assez facilement vérifiable. Mais qu'est-ce que c'est chez toi les livres qui fonctionnent le mieux? Et est-ce que tu sais l'analyser surtout?
C'est de la romance, très clairement. Donc, c'est très simple. Donc, c'est facile à analyser. La romance fonctionne très, très bien. En termes de notoriété, en termes de vente, en termes de revenus, c'est la romance qui me fait vivre. Maintenant, la romance a une durée de vie moins longue aussi. J'arrive à recycler plus facilement mes livres imaginaires, parce qu'on peut faire des intégrales, on peut faire ci, on peut faire ça. Les romans, c'est plus difficile de rebondir et de faire de redonner un nouvel essor à l'histoire. Mais c'est très rentable. Dans le sens financier, c'est très rentable.
Oui, les lectrices sont des grosses consommatrices. Et donc c'est...
Voilà. Ça se lit bien, ça se lit vite et ça se consomme très facilement. Donc la romance... ça fait un carton.
Ok. Moi, ce que j'avais remarqué chez toi assez rapidement, c'est que finalement, cette question du multigenre, t'en as presque fait un argument marketing, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose qui fait ton identité, tu vois, en tant qu'autrice. En tout cas, c'est quelque chose que tu caches pas du tout, tu le revendiques presque. Est-ce que c'est quelque chose que tu as pensé assez rapidement dans ta carrière d'autrice, ou est-ce que ça c'est finalement, c'est en prenant du recul que tu te rends compte que ça fait partie de ton identité?
C'était pas pensé du tout. Bien au contraire, parce que quand je me suis rendu compte qu'il fallait que je me professionnalise, que j'ai ouvert une entreprise, il faut que ça marche maintenant. Donc j'ai fait pas mal de formations à droite à gauche, j'ai écouté, je me suis inscrite dans des groupes, j'ai voulu essayer les conseils des uns, les conseils des autres, il fallait trouver une identité visuelle, il fallait que je me démarque, il fallait que je montre quelles sont mes valeurs, que si, que ça, et donc je me suis un peu noyée là-dedans, clairement, à vouloir tout faire, tout écouter et à tout faire parfaitement, je me suis noyée et j'ai fini en burn-out. Donc c'était pas une bonne idée de faire tout ça. Et je me suis rapidement rendu compte quand même après que, eh ben moi je suis pas une personne très lisse en fait. Moi je suis ça aussi. Donc comment choisir une seule image, une seule identité visuelle pour celle que je suis si celle que je suis n'est pas toujours la même. Bon ça fait un petit peu, ça fait un peu bizarre dit comme ça. Mais promis, ma santé mentale va bien. Mais on change tout le temps. Celle qui a écrit l'Éden n'est plus la même aujourd'hui. Est-ce que je réécrirais la même chose aujourd'hui? Pas forcément. Donc en fait, est-ce que c'était mieux avant? Est-ce que c'est mieux maintenant? Je dirais que tout est global. Donc oui, je revendique vraiment le fait d'être entière. Et être entière et authentique, c'est être transparente. Je suis l'Éden, je suis du post-apocalyptique, je suis aussi romantique. Enfin, je suis tout ça, donc pourquoi choisir? Je ne saurais pas choisir quelle personnalité, quel moment de ma vie. Enfin voilà, on n'a pas toujours envie de sortir pour voir des amis. On n'a pas toujours envie de manger de la raclette. Parfois, on veut manger, on veut manger une salade. Enfin voilà. Et puis pourquoi se cantonner à manger de la salade toute sa vie si on veut aussi manger de la raclette quoi.
Je pense que ça créerait de la frustration chez toi si tu pouvais pas justement tout explorer, tout faire et sans te mettre forcément de limites.
Oui. Oui, je pense que si je devais me brider, j'aurais de nouveau l'impression d'être acculée et je le vivrais pas très bien. J'ai vraiment un besoin de liberté totale sur ce que je fais, sur ce que je vis. J'ai vraiment besoin d'explorer ce que je suis, autant dans mes écrits que dans ma vie personnelle, au jour le jour en fait. Donc c'est pour ça que même planifier mes posts sur un mois, c'est impossible parce que j'ai déjà essayé, mais au final... Le jour J, je me dis, ah ben non, ça je vais pas dire maintenant, parce que j'étais pas de bonne humeur, parce que j'étais pas dans le mood, ou quand on écrit un post très joyeux et qu'il faut répondre à des commentaires très joyeux alors qu'on est au fond du gouffre parce que, pour une raison ou une autre, ou qu'on a eu ses règles, ou je ne sais pas, et ben j'ai pas envie en fait, j'ai pas envie d'être cette fille-là, j'ai pas envie de communiquer des choses qui ne sont pas moi, sur le moment. Donc je préfère la spontanéité. Ouais, je sais, c'est bizarre, c'est compliqué, ça, c'est pas très compatible avec la vision d'un business, mais c'est comme ça que je le gère, au jour le jour.
Tu gères alors aussi l'aspect communication par rapport à ça, du coup, justement, tu parlais des réseaux sociaux, t'as une newsletter, etc., comment est-ce que tu t'organises?
Pour la newsletter, c'est assez facile. Maintenant, j'ai trouvé mon rythme. J'envoie une newsletter tous les mercredis matin et je la rédige le mardi. Je les rédige pas 4 à l'avance parce que, pareil, je vois pas ce que je vais dire 4 semaines à l'avance. Si ça se trouve, dans un mois, j'aurais plus envie de parler de ça ou il y aurait eu d'autres nouvelles entre-temps. Donc, j'écris le mardi une newsletter pour tous mes abonnés et j'écris ce que j'ai envie d'écrire. Donc, je partage des moments de ma semaine, de mon quotidien ou de l'avancement de mes projets ou parfois j'ai envie de faire un concours et de leur offrir des trucs ou bien je leur fais lire un truc en avance. Ou bien je partage quelque chose de très personnel. Enfin, ça va changer d'une semaine à l'autre. Après, j'ai un plan quand même marketing. J'aime pas trop ce mot, mais c'est celui qui correspond le mieux. Quand j'ai une sortie, forcément, j'ai des choses dont il va falloir que je parle. Donc, ça va se rajouter sur la newsletter hebdomadaire. Donc, ça va se rajouter. Je vais dire, oui, cette semaine, il s'est passé ça. Enfin, voilà, je vais parler de ce dont j'ai envie de parler. Mais aussi, pour Oniri, par exemple, cette semaine, j'ai fait ça. Est-ce que ça te dirait de découvrir en avant-première la couverture ou des choses comme ça? Donc, ça va se greffer dessus. Pour ce qui est des réseaux sociaux, pareil, j'ai un plan marketing pour les sorties et pour les après-sorties. Donc, j'ai une liste de choses auxquelles il faut que je parle, comme la couverture, les résumés, évidemment, toutes les choses, parler des préventes, parler de ci, du site web, de machin, de tout ça. Et après, je fais beaucoup au feeling aussi. Mais j'ai remarqué que ce qui fonctionne pour les autres ne fonctionne pas forcément pour moi, donc publier 3-4 fois par semaine, c'est pas dans mon avantage, dans le sens engagement, si on doit vérifier les statistiques. Donc, toute cette partie où je me forçais à faire ce que les autres font, ou les conseils ou les formations, ne fonctionne toujours pas pour moi. Donc, je reste pareil dans la spontanéité. Donc, si j'ai envie d'écrire, je vais écrire un post, donc de ce dont j'ai envie de parler. J'ai des sujets que j'ai préparés à l'avance. Il y en a, ça fait 3 mois qui sont sur mon post-it et que j'ai pas encore mis en place parce que j'ai pas eu l'élan pour le faire. J'ai pas trouvé le moment opportun pour en parler. Donc, j'essaye de publier une fois par semaine, minimum quand même. Donc, en général, le lundi, je commence la semaine en préparant un petit post pour les réseaux sociaux avant de commencer toute ma semaine. Comme ça, je sais qu'au moins c'est fait et que j'ai eu envie de parler de ce que j'ai envie de parler ou de maintenir mon plan marketing ou des choses comme ça. Et j'intègre des petites choses à droite à gauche quand j'en ai envie. Parfois, sur la fin de semaine, je fais un deuxième post ou pas, sans pression. Après, j'ai TikTok aussi. Ça, c'est récent et... Je découvre encore, je ne saurais pas vraiment en parler. J'essaye de faire des trucs, je ne sais pas si c'est bien, je ne sais pas si c'est pas bien. On avisera au fur et à mesure, j'ajusterai.
Ouais, ça prend un peu de temps quand on démarre sur une nouvelle plateforme. Mais du coup, tu ne segmentes pas spécialement en fait, ta communication non plus par rapport à tes lecteurs et à tes différents livres. En fait. Ta newsletter, elle est a priori pour tout le monde du coup.
Oh oui, elle est. Oui, parce que je ne suis pas très douée en informatique déjà. Il y a quelque chose de très marrant si on s'abonne à ma newsletter, c'est qu'il y a forcément un couac à chaque fois. Toujours. Toujours, toujours. Je vais mettre un lien, il ne va pas fonctionner. On ne sait pas pourquoi il ne fonctionne pas, mais je ne sais pas, j'ai peut-être la poisse ou un truc comme ça. Mais il y a toujours un truc qui ne va pas. Et ce n'est pas grave, hein, c'est ma signature au final. Et puis je fais plein de fautes aussi, mais ce n'est pas grave. Voilà, je ne me relis pas assez. Donc voilà, mes lecteurs doivent le savoir à force. Hein, ils ne me le remontent même plus. Ils se disent « Ah, elle a encore fait une faute !» Ah, le lien fonctionne de nouveau pas. Bon, de temps en temps, ils me le disent quand même. Ils disent, le lien ne fonctionne pas. Mince, mais pourquoi? Donc voilà, ça fait partie du charme, j'ai envie de dire. Donc non, je ne segmente pas. La newsletter, c'est vraiment, au feeling, c'est assez personnel. Je vais parler de mon quotidien, de ce que je fais. Donc, ils me suivent parce qu'ils ont... envie de découvrir mes aventures. Ceux qui me suivent pour la romance vont découvrir à quel point je m'arrache les cheveux sur les corrections de Oniri, par exemple. Et ceux qui me suivent pour le fantastique en ont pour leur argent actuellement. Mais quand ce sera pour la romance, peut-être un peu moins, mais j'ai quand même des gens qui me répondent régulièrement, même si c'est pas leur genre. Ils me disent oui, c'est pas mon genre, mais je trouve ça génial ce que tu fais. Donc, ça fait partie du jeu. On n'a pas toujours les mêmes points d'intérêt et puis on peut discuter quand même. Hein.
Oui, c'est ça. J'ai l'impression qu'en fait, le fait de prendre de la hauteur un petit peu et de ne pas parler seulement des livres, mais aussi de ta vie d'autrice et de ce que ça comporte comme quotidien, comme tâche à faire, etc. En fait, finalement, ça intéresse quand même les gens, quand bien même ils ne liraient pas exactement ce que tu es en train d'écrire actuellement.
Oui, voilà. Donc, il y a forcément des goodies dans ma newsletter. Hein. Il y a des chapitres bonus. Je fais des concours spécialement pour mes abonnés. Qui reçoivent des illustrations, même des livres, ou alors quand j'ai des livres abîmés qui arrivent dans mon stock, je les offre et je les envoie gratuitement à mes abonnés dans ma newsletter. Voilà, il y a toujours des choses par rapport aux livres, mais il y a aussi beaucoup de choses qui font de moi celle que je suis. Donc voilà, quand j'ai eu une semaine de merde parce que les enfants étaient malades et que j'ai même pas réussi à allumer l'ordinateur 2 fois, je partage ça aussi. On est humains, quoi, on est tous humains, donc... J'ai l'impression de discuter avec des copines quand j'envoie des newsletters.
Et de la proximité. J'avais envie de te demander si tu avais une idée de conseil que tu donnerais à un auteur qui a envie d'auto-publier, mais qui justement, comme toi, écrit dans différents genres et qui se pose un petit peu la question aujourd'hui de publier dans ces différents genres ou de capitaliser sur un ou deux. Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire s'il te posait la question?
C'est difficile comme question. J'ai envie de dire « fais pas comme moi », mais en même temps... Parce que c'est pas ce qu'on lit partout on lit qu'il faut bien faire la différence entre les deux, faire deux comptes, il faut faire deux communications différentes, donc moi j'ai envie de dire essaye, vois ce qui marche, est-ce que t'as besoin de 2 noms de plume, est-ce que t'as assez de temps pour les gérer les deux, si t'en as assez maintenant, ok, mais est-ce que dans 1 an ou 2, est-ce que ce sera toujours ce que tu veux faire? Est-ce que tu écris 2 genres différents et que tu as besoin d'un nom de plume parce que tu veux pas être reconnu par ta famille parce que tu écris des choses... Je sais pas, on peut écrire des romans érotiques et on n'a pas envie que papa le lise. Hein. Donc et je pense qu'il faut vraiment voir ce dont on est capable d'assumer et ce qu'on veut soi-même, en fait. Il faut se faire confiance, essayer, se planter, recommencer, je sais pas. Il faut essayer, faire confiance à la vie.
T'es pas du genre à suivre les règles du marketing et tout.
Non, mais moi, pas du tout. Hein. Si vous vouliez des conseils de marketing et de règles, alors là, vous êtes mal barré avec moi. Hein, parce que chez moi, c'est un peu rock'n'roll. Hein. C'est au jour le jour.
Ouais, mais ça marche pour toi, en tout cas.
Pas toujours. Hein. J'ai aussi des livres qu'on fait un flop, hein, mais c'est pas grave. On apprend. On se dit, bah, on change la couverture, on change si ça marche toujours pas. Bah, tant pis, c'est que c'était pas celui-là. On en écrit d'autres, on continue. Il faut pas rester accroché, c'est comme ça. Je l'ai écrit. Est-ce que si j'avais su, je l'aurais pas écrit? Bah si, je l'aurais écrit quand même. Donc, est-ce que ça change quelque chose? Non. Au final, ça change quand même rien à ma vie. Donc, voilà. Après, si c'est sûr que si c'est pour rentabiliser pérenniser une activité pour pouvoir en faire un métier à temps complet, peut-être qu'il faut faire attention de choisir le genre dans lequel on écrit. Mais là, c'est très difficile pour moi de dire ça parce que je ne saurais pas me forcer à écrire des choses que je ne veux pas écrire non plus. Donc, ça dépend vraiment de chaque personne.
Ouais, apprendre à se connaître et réfléchir un petit peu plus loin que juste ce que j'ai envie de faire maintenant, mais qu'est-ce que je prévois en fait pour... Est-ce que, d'abord, la première question, est-ce que je vais en faire une carrière ou pas aussi?
C'est ça. Parce qu'on peut écrire aussi parce qu'on a juste envie d'écrire. Donc, il faut vraiment voir ce qu'on veut en faire au fur et à mesure.
Bon, et toi alors, ton dernier roman vient de paraître, donc le 15 mars. Il s'agit du tome 2 d'Oniri. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette saga?
Oui, bien sûr. Donc, c'est ma dernière obsession. C'est tout ce qui touche un petit peu à la spiritualité, mais pas à la religion. Donc, les mondes invisibles, le voyage astral, tout ce qui est méditation, vie antérieure, le poids des générations d'avant, toutes ces choses qui font de nous ce qu'on est aujourd'hui. Tout ça, ça m'intéressait beaucoup. Donc, je me suis beaucoup, beaucoup documentée pour ne pas raconter n'importe quoi et pour que ça reste crédible et réel. Donc je me suis énormément documentée et j'en ai fait une fantasy parce que je n'aime pas écrire des livres sur des faits réels en fait. Donc voilà. Donc là j'avais envie d'explorer tout ce qui est monde parallèle dans le sens voyage astral, la conscience, toutes ces choses. Donc mon premier roman s'appelle Oniri, le dernier onirigraphe. On va suivre une jeune autiste, j'en ai parlé tout à l'heure, ça aussi c'était un sujet très important pour moi, dans son quotidien. J'avais pas envie de montrer... de faire une description complète de ce que ça peut être l'autisme au féminin. Moi, je voulais qu'on le ressente. Donc, j'ai créé une personnage autiste qui s'appelle Nora et elle a un secret. Elle, quand elle dort, elle peut détacher sa conscience de son corps pour voyager dans les strates de l'invisible, donc dans l'Oniri. Donc, ça va être un monde différent dans lequel elle va pouvoir voyager. Et en voulant aider son grand à obtenir un nouveau travail, elle va faire une bêtise et elle va se rendre compte que ce monde est bien plus vaste et complexe que ce qu'elle imaginait. Donc voilà, elle va voyager en Oniri, elle va essayer de retrouver son grand-père, elle va rencontrer un beau jeune homme. J'ai dit qu'il y avait toujours de la romance hein, dans mes romans. Hein. Donc elle va rencontrer quelqu'un qui n'était peut-être pas sa première rencontre, peut-être que dans d'autres vies, elle l'a déjà connu. Et donc dans ce deuxième tome, on va se rendre compte qu'elle va voyager dans ses vies antérieures pour trouver le secret des onirigraphes. Et elle va se rendre compte que cet homme, en fait, a partagé plusieurs autres vies avec elle. Donc, tout le poids de ses anciennes vies sont inscrites dans sa vie actuelle. Donc, bah, voilà, c'est un peu complexe comme univers, mais on sent quand même où on va, je pense.
Je mettrai de toute façon, pour ceux qui écouteront le podcast, tous les liens vers tes réseaux et tes pages. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec moi. Franchement, c'était un plaisir de faire ta connaissance et de parler de ton univers, enfin de tes univers, je devrais dire.
C'était un plaisir.
Quand on commence une carrière d'écrivain, forcément, on se pose la question du genre. Parce qu'on est humain, on a envie de tester plein de choses, de se faire plaisir. Et l'auto-édition, justement, ça permet ça. C'est une liberté, peut-être, qu'une maison d'édition peut moins se permettre. Certains auteurs segmentent vraiment leur communication ou alors ils se spécialisent dans un genre. On a déjà vu que ça marche, c'est une stratégie qui est ultra efficace. Mais quand on est comme Julie, qu'on fait un petit peu tout, qu'on n'a pas envie de se restreindre, qu'on n'est pas fait forcément pour suivre les règles établies un peu du marketing, ben finalement la non-stratégie, ça devient une stratégie. Ça veut dire assumer à 100% qui on est et faire de ça un argument de vente. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai trouvé ça super intéressant et ça me donne plein d'idées. Si vous voulez en discuter d'ailleurs, vous pouvez me contacter sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, édition-artis. Et puis pour les autres, la formation publiée, son livre en auto-édition continue de s'étoffer et de grandir, donc vous pouvez retrouver toutes les informations sur Instagram ou sur mon site internet autoéditionartiste.com. Et une nouvelle formation sur l'auto-édition et la librairie est en cours de création, donc restez dans le coin pour ne pas rater ça. Ciao.